Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et vous apprêtez à écouter un épisode bonus. C'est-à-dire que dans le hors-série 5, nous avons parlé de l'exposition Hubert Robert et Fragonard, le sentiment de la nature qui est au musée de Valence jusqu'au 21 juin 2026. Et avec mon invité, donc commissaire de l'exposition, Sarah Catala, on a eu plein d'échanges très intéressants sur le marché de l'art, sur comment elle travaille aujourd'hui et un peu les dessous de l'exposition, donc je me suis dit que c'était quand même intéressant pour vous écouter. Donc voilà, un petit épisode bonus juste pour vous. J'avais une question un peu plus peut-être sur le côté recherche, donc qui est en amont de toutes ces expositions, mais j'imagine étant ton travail encore au quotidien. Parce que là, tu nous as parlé de plusieurs tableaux et plusieurs exemples d'œuvres que finalement vous découvrez plutôt récemment, entre la réattribution et même les collections privées et la mise sur le marché de l'art de nouvelles œuvres qui étaient un peu méconnues. Est-ce que du coup, tu continues dans ton travail de te dire bah, peut-être qu'on va redécouvrir des carnets, des choses qui vont nous permettre de mieux comprendre le travail de ces peintres ?
Oui, je me le dis tout le temps. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur tout ce qu'on a à trouver et encore plus dans tout ce qui reste à travailler dans les collections publiques. Moi, je viens du monde du dessin. C'est un monde qui est difficile parce que les œuvres, comme elles doivent échapper à la lumière, elles sont dans des réserves et que pour y accéder, on dépend entièrement du conservateur. Si on n'a pas fait de recherche, on ne peut pas mesurer les efforts que c'est que de se déplacer à ses frais pour aller dans un cabinet de dessin et que c'est tellement dur de ne voir que la boîte de l'artiste qui nous concerne. Comment faire des découvertes si on ne peut pas voir la boîte autour, les boîtes anonymes, etc. Je sais que c'est du temps, mais je trouve que des fois, dans le métier qui est aujourd'hui le mien, dans la fonction qui est aujourd'hui la mienne de conservatrice du patrimoine, j'aimerais vraiment des fois rappeler à certaines personnes qui privilégient une activité au détriment d'une autre au sein des musées que c'est aussi une mission de service public et qu'on ne peut pas sans eux faire de découvertes. Ils sont vraiment notre cheville ouvrière et en échange, ils auront forcément de nouvelles attributions, de nouvelles connaissances pour enrichir leurs inventaires, les préciser, etc. Donc il faut le voir comme quelque chose qui se nourrit l'un l'autre plutôt que comme une contrainte. Et si j'en parle, c'est que les recherches les plus intéressantes que j'ai pu faire, c'est parce qu'on m'a laissé farfouiller dans les boîtes, on m'a fait confiance. Alors bien sûr, les personnes sont avec vous dans la salle. Mais c'est aussi ces images multispectrales que les collègues rencontrés au fil de séjours, de voyages, de rencontres, de colloques vous envoient. Et quand je fais cette exposition, je leur dois beaucoup. Et je suis vraiment contente et je me disais que si des fois on était un peu plus tous dans ma communauté de conservateurs un peu plus au fait de vraiment ce que c'est des recherches et des recherches non financées. Moi j'ai pas eu de contrat doctoral quand j'ai fait ma thèse. Je me suis lancée parce que je savais que je pouvais faire des expertises sur le marché de l'art qui pouvaient m'être rémunérées. Alors pas de quoi m'acheter un appartement à Paris, hein, mais juste pouvoir financer mon quotidien et quelques voyages. J'ai eu la chance ensuite d'avoir 3 bourses. Une bourse du Centre allemand d'histoire de l'art, une bourse au Metropolitan Museum of Art pendant un an et une bourse du Getty dans le cadre d'un paper project au musée des arts décoratifs qui était un travail à plein temps mais qui certes m'a donné quand même, je conseille à personne d'avoir un enfant, un boulot à plein temps et de faire sa thèse le soir, il y a un moment au bout de 9 mois de grand découragement et de grande fatigue.
J'imagine bien.
mais ça reste possible, moi j'ai fait ma thèse en 5 ans mais elle s'appuyait sur des années de recherche aussi.
5 ans non financés, c'est quand même, c'est pas mal, c'est assez fort quand même.
Oui, j'étais, m'en suis pas aperçue sur le coup, mais après coup, je me sens assez en confiance sur la capacité de mener des recherches. Alors certes, c'était pas des recherches parfaites, je suis pas allée voir tous les inventaires, mais à un moment donné, c'est comme ça. Vaut mieux que ce soit fait, que ce soit pas fait du tout, ou voilà, et même si c'est... De toute façon, la recherche en histoire de l'art, elle est accumulative, perfectible. Aujourd'hui, on a des comités de relecture internationaux qui nous font des retours. Écrire un article, c'est l'envoyer dans une certaine forme et le publier dans une forme qui est tout autre en général et même la plupart du temps. Donc c'est vraiment tous ces échanges qui sont vraiment très riches et qui, moi, je le retrouve dans cette exposition Hubert Robert et Fragonard, c'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées au fil de mes recherches, de mes travaux, d'articles de colloques, etc., ou de bourses, ils sont aujourd'hui dans le catalogue. On retrouve Guillaume Farou qui m'a donné une grande chance en me permettant d'étudier et de publier tous les dessins du Louvre pour son exposition en 2016. On y retrouve mon superviseur au Met, Perrine Stein. On y retrouve Denis Ribouillot, qui était quelqu'un que je lisais beaucoup. On y retrouve Thea Goldring, que j'avais croisée aux États-Unis lors de ma bourse, et qui travaillait à Harvard sur déjà des questions de matérialisme dans le paysage, c'est quand même très spécifique. On y retrouve Camilla Petrabissa, qui m'avait invitée, une ancienne collègue fellow du Centre allemand, qui m'a invitée à un colloque sur le paysage en Europe, et qui a été un grand moment pour moi pour présenter mes premières recherches sur Fragonard. Et puis, on y voit aussi toutes les personnes avec qui on fait des visios, des zooms aux États-Unis et tout. En fait, dans une expo, on voit pas tout le travail qui est mené. Ça, c'était vraiment une exposition qui était le fruit d'une longue discussion, parfois en désaccord avec des spécialistes de Fragonard, notamment pour certaines attributions. Ils ont été sollicités pour participer au catalogue, pas tous, mais ils n'ont pas toujours souhaité, ils avaient leur propre projet, et finalement, ça m'a un peu libérée. Je me suis dit, bon, j'ai la possibilité de proposer mes hypothèses. Et puis, bah, c'est ça, c'est cumulatif. Donc, s'ils sont pas d'accord, ils pourront répondre à travers d'autres articles. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et est-ce que aussi, en plus du travail avec les musées, actuellement, quand on travaille sur l'histoire de l'art sur le XVIIIe siècle, est-ce que tu dépends beaucoup des collections privées, des collections particulières ? Et là, bah, tu ne maîtrises pas du tout, des fois, des choses qui sortent, qui se révèlent, et on dit « Ah, mais en fait, on connaissait pas telle œuvre. »
Oui, bon, en fait, oui. C'est sûr qu'on a la chance de vivre dans un pays où on a beaucoup de collectionneurs, des collectionneurs très exigeants, très savants. On est très étonnés en discutant avec eux de tout le savoir qu'ils ont. Ce sont des gens qui ne regardent pas les images des choses qu'on écrit, mais qui lisent tout, qui posent des questions extrêmement précises. De toute façon, ce sont des gens déjà dans leur propre métier qui sont très compétents, très exigeants et qui ont vraiment le sens de l'effort. Donc ils ont en général une attitude très respectueuse. On peut aller chez eux. Je dis chez lui, c'est vrai que c'est souvent des hommes. On peut aller chez eux, mais j'avais quelqu'un dans la tête en particulier, c'est vrai, quand j'y pensais. Des personnes qui aiment montrer leur collection, il faut accepter une certaine discrétion. Voilà, quand on rentre dans une collection, demander à prendre les photos, les montrer pas à tout le monde, parce qu'on est chez les gens, c'est pas une obligation de nous montrer ça, c'est pas des collections publiques, personne n'a de service public. Certes, c'est un patrimoine que dans l'absolu, on aimerait qu'il appartienne à tout le monde. Mais ce qui est le plus enrichissant, c'est de gagner la confiance et de pouvoir voir toutes les pièces d'une maison. Parce que là, on y voit des choses magnifiques, donc c'est de rester ouvert, de curieux. On va y trouver des mobiliers parfois fous. Et puis parfois, même pour des collectionneurs, voilà, il y a des gens qui ont peut-être hérité de 2-3 feuilles exceptionnelles. On n'a pas besoin d'avoir une très riche collection pour continuer d'échanger. Moi, j'ai de la chance d'avoir cofondé une association qui s'appelle Bella Maniera, où depuis 10 ans maintenant, déjà, on échange avec plein de personnes, des étudiants. C'est vraiment un lieu qui mélange tout le monde et qui, moi, m'a beaucoup désinhibé par rapport aux collectionneurs. Mon expérience dans le marché de l'art l'a fait aussi. Donc j'ai écrit pendant, je dirais, 5 ans des expertises pour la peinture française 18e siècle, dessin aussi, un peu moins parce que bah, ça se vend moins cher, donc on y réfléchit à deux fois avant de confier une notice à un historien. Mais c'était des expériences vraiment très très riches où il faut réfléchir à un vocabulaire, rester factuel. Il y a des enjeux majeurs économiques. Ça m'a permis de prendre conscience de la valeur de mon travail, pas seulement une valeur intellectuelle, mais une valeur économique. Accepter des honoraires fixes, par exemple sans bénéfice, sans un pourcentage de bénéfice sur la vente d'une œuvre, parce que je savais que je voulais aller dans un musée. Je savais qu'à terme, je voulais passer le concours de conservateur. Je savais pas quand est-ce que j'en aurais le courage, mais je le savais, donc il fallait que je préserve ma réputation.
Passer du privé au public, en fait.
Oui, et d'une activité libérale à une activité vraiment publique aussi. Moi, j'ai adoré cette expérience dans le libéral. Elle m'a vraiment extrêmement enrichie. Elle m'a donné beaucoup confiance en moi parce qu'il fallait que je défende mon travail constamment, y compris financièrement. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. J'y ai rencontré plein d'œuvres, plein de marchands différents, des restaurateurs différents parce que j'ai eu la chance souvent à Paris de pouvoir voir l'œuvre à son arrivée, en cours de restauration, et ensuite, c'est un monde difficile, c'est un business quoi, donc il faut y aller, donc ça peut paraître difficile, c'est un monde aussi où les marchands et les marchandes sont très passionnées, elles aussi, les marchandes ont souvent fait des études d'histoire de l'art, elles ont ma préférence, parce que c'est un monde très masculin quand même, donc quand elles y arrivent, je sais les efforts qu'elles ont fait, donc je trouve ça remarquable. Moi, je suis vraiment très, très heureuse. Je me sens vraiment prête en tant que conservatrice à travailler avec ces acteurs parce que je sais ce qu'ils font, je connais leurs petits défauts. Nous aussi, on a les nôtres dans le marché. Je dirais, très honnêtement, pour les jeunes chercheurs qui réfléchissent à la question du marché, moi, c'est un hasard le plus complet parce que Hubert Robert a été très prolifique. Ce qui fait que ça m'a donné constamment du travail parce qu'il y avait du vrai, du faux, du pas sûr. Ça m'a amené à Fragonard aussi et à d'autres artistes, tout l'entourage, notamment des pensionnaires en Italie. J'ai fait beaucoup de notices sur des suvets, des châles, des choses comme ça, ces artistes-là. Je dirais qu'il faut faire attention. C'est une question de déontologie. J'ai eu des périodes de précarité où je voyais bien à quel point ça aurait été facile d'avoir des conflits d'intérêts en attribuant une œuvre qui n'en est pas une. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. C'est un sujet tabou, on a du mal à en parler parce que déjà, il y a peu d'historiens qui travaillent avec le marché comme j'ai pu le faire. Mais moi, j'ai vu ça de près de qu'est-ce que c'est quand vous faites une expertise. Donc moi, une expertise, c'est un texte complet d'histoire de l'art, avec une recherche de provenance, la bibliographie et l'interprétation de l'œuvre avec des notes de bas de page et un état aussi de la restauration, de l'état de restauration, parce que vous pouvez avoir un Hubert Robert mais qui a été retouché par un restaurateur et ça faut le dire, les œuvres elles ont été rentoilées, elles ont perdu, enfin bon bref, toutes ces choses là. Ce qui était le plus dur pour moi, c'était de se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir sur un artiste. Pour moi, c'était impossible de le faire. Parce que j'avais réussi à vivre des choses tellement fortes grâce à Hubert Robert que le moindre respect que je lui devais, c'était une réalité de ce que je pense être le plus juste. Donc des fois, j'ai pas bien fini le mois parce que j'avais dit non à une expertise, parce que je voyais pas, c'était pas Hubert Robert ou pas complètement. Des fois, les choses, elles se révèlent plusieurs années, elles ont besoin de maturité, elles ont besoin de recherche, elles ont vraiment besoin de recherche, on a besoin d'avancer. Par exemple, l'année dernière, j'ai publié un article sur Ango, qui est un artiste qui a travaillé avec Hubert Robert, qui m'a permis de faire un grand tri sur les attributions, avec parfois des déceptions fortes pour des marchands.
Oui, tu peux te mettre des personnes à dos, j'imagine, quand tu fais ce travail-là.
En fait, non, pas tant que ça. En fait, c'est ce qu'on anticipe, c'est ce qu'on imagine, moi j'imaginais, mais pas tant que ça, parce que quand on argumente très fortement et qu'on explique tous les cheminements de pensée qu'on a. Les gens peuvent être d'accord ou pas avec vous, mais on ne peut pas vous empêcher d'avoir fourni une nouvelle recherche. Au contraire, le marché de l'art, c'est un marché qui aime la sécurité. Donc c'est pour ça qu'on peut devenir très vite un spécialiste sollicité parce qu'ils ont besoin de sécurité. Parce qu'en fait, ce n'est pas la bonne attribution, ils ont une obligation qui est dans la loi, qui est celle de rembourser l'œuvre. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Moi, j'étais très contente de connaître cette réalité. C'est pas si terrible, c'est juste dur parce qu'ils sont nombreux et il n'y a pas beaucoup d'œuvres.
Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Si jamais vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez encore écouter le hors-série 5 que j'ai fait avec Sarah Catala sur vraiment toute l'exposition, ou alors vous rendre directement au musée de Valence pour voir les œuvres d'Hubert Robert et des Fragonard. Merci encore de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ou peut-être un bonus ou un hors-série, je ne sais pas. Salut !